Bienvenue chez le club Toastmasters Forum des Rives de Seine à Boulogne-Billancourt. Vous commencez à transpirer quand vous devez faire une présentation devant les clients? Vous bloquez alors que c'est votre tour de prononcer un discours au mariage de votre meilleur ami? Vous gérez une équipe, mais vous pensez ne pas être assez compétent, compétente, pas assez écouté? Alors, notre club est pour vous. Je m'appelle Tatiana Klimova et aujourd'hui, je vais parler avec Hicham Oulepsir, un membre de notre club. Nous allons toucher aux sujets fascinants comme lecture rapide, la préparation mentale avant une prise de parole. Hicham va aussi nous raconter comment il a décidé de se transformer pour devenir un orateur accompli. J'ai adoré cette conversation et je suis sûre que vous la trouverez intéressante aussi. Alors, on y va!
Je m'appelle Hicham. Aujourd'hui, je suis formateur et coach professionnel. Je travaille notamment avec une université sur des thématiques des soft skills. J'aide des étudiants à se former sur la communication, comprendre les autres, se comprendre soi-même, sur des thématiques aussi de coopération et de team building notamment. Ça, c'est ce que je fais côté universitaire. Je travaille en tant que coach professionnel, c'est-à-dire que j'aide des managers, des directeurs de vente à être beaucoup plus efficaces dans leur travail. Donc c'est beaucoup de la communication, c'est beaucoup de compréhension de son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, par exemple, je travaille avec un architecte et je l'aide à construire des idées pour son livre. Donc je l'aide à réfléchir pour modifier sa structure notamment. Je l'aide aussi sur des aspects de créativité. Donc j'ai développé quelques outils pour notamment développer la créativité. Je travaille avec un médecin qui est chirurgien ophtalmologue et je l'aide beaucoup sur la gestion de ses émotions et sa capacité à être dans le moment présent. Surtout quand il fait ses chirurgies, qui est très important pour prendre des bonnes décisions.
La pleine conscience.
Pleine conscience de « je suis là et j'ai confiance en ce que je vais faire ici et maintenant ». Et je ne suis pas pollué par des pensées du passé ou du futur, de ce qui pourrait se passer si je rate, par exemple. Donc ce sont beaucoup d'outils de sport de haut niveau que j'ai développé tout au long de ma vie et de ma carrière. Moi, j'ai fait du football à haut niveau. J'ai joué en Angleterre pendant une année d'études là-bas. Et je fais du tennis aujourd'hui et je pratique ça d'une manière compétitive, quoi. Je fais de la compète et je suis classé 15. Donc, pour les tennisman, ça parle, mais c'est un bon niveau, c'est pas du pro ou du semi-pro, mais c'est un très bon niveau de... Voilà, c'est beau à voir, on va dire.
Oh, très bien, bon, on viendra te voir un jour. Où est-ce que tu joues?
Je joue dans un club qui s'appelle la Selle Saint-Cloud, c'est dans le 78, sur l'autoroute, j'entends d'ailleurs les voitures. Donc voilà, un petit club où je joue depuis 4-5 ans maintenant.
D'accord, très bien. Et quelles sont tes valeurs, ton credo dans la vie?
La première, c'est le bien-être et la santé. Maintenant qu'on a dit ça, il faut définir ça. Bien-être, c'est prendre soin de mon corps. C'est très important pour moi au niveau de l'alimentation, au niveau du sport que je fais, des activités. Ensuite, c'est beaucoup de bien-être aussi mental. Je m'informe beaucoup. Je travaille beaucoup, la lecture, j'échange beaucoup avec beaucoup de personnes. Mon bien-être, il est global. C'est mes relations, c'est mes lectures, c'est aussi prendre soin de mon corps. Ça, c'est ma première valeur.
D'accord. En plus, maintenant, la science montre que notre humeur dépend beaucoup de ce qu'on mange, n'est-ce pas? Que souvent, c'est d'abord ce qu'on mange et après, on est de bonne humeur.
Exact.
D'accord.
Ce qu'on mange, ce qu'on pense, avec qui on parle et qu'est-ce qu'on lit. En ce moment, je suis sur des livres liés à l'organisation. Donc le dernier livre que j'ai lu s'appelle « Conduite du changement »,« Conduire le changement » de John Kotter, qui a écrit un livre sur comment accompagner une entreprise dans son évolution, dans la gestion du changement justement, en 8 étapes. Donc c'est très intéressant et ça permet d'avoir des outils concret à mettre en place pour un manager, pour un leader, pour justement réussir un changement qui est quelque chose de très difficile au sein d'une organisation, même au sein d'une personne. Donc c'était très enrichissant comme lecture.
Et je sais que tu lis tes livres très rapidement. Quel est ton record ?
Aujourd'hui, je n'ai pas mesuré encore ma vitesse récemment, mais je lis à peu près 700 mots par minute. C'est rapide. On estime qu'on lit rapidement à partir de 600 mots par minute. Un lecteur normal, il lit 250 mots par minute. C'est la moyenne. En page, 700 mots par minute, c'est être capable de lire un livre de 200 pages en 3h30 à peu près.
Waouh, voilà. Tu t'es entraîné à faire ça ?
Oui, je me suis formé en 2019 avec un champion du monde 2017 de lecture rapide. Et une fois que j'ai été formé, j'ai énormément pratiqué. J'ai non seulement pratiqué la lecture, mais aussi j'ai formé d'autres gens pour m'imprégner des techniques. Et donc cette double action m'a permis de vraiment de m'ancrer ces techniques et cette manière de faire. Et donc oui, je suis capable de lire un livre très rapidement, la même journée, ou en deux jours quand j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer.
Mais je me suis toujours demandé, est-ce qu'on prend du plaisir quand même à lire un livre si on le lit aussi rapidement, ou est-ce que c'est juste pour prendre des informations et puis les utiliser
Alors dans le cas de John Cotter, c'était pour une fiche de lecture. C'était pas pour le plaisir, c'était pour un objectif précis qui était de remplir cette fiche de lecture et puis d'obtenir le maximum d'informations et de méthodologie par rapport à cet accompagnement du changement. Mais si on a un objectif précis, c'est mieux pour la lecture rapide. Maintenant, le plaisir, c'est pas forcément, ça va pas forcément avec la vitesse.
Très bien. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la prise de parole en public. Et je pense que souvent, les qualités de prise de parole, ça vient depuis déjà l'enfance, l'adolescence. Est-ce que dans ta famille, les gens savent bien parler en public ? Est-ce qu'il y a la culture de raconter des histoires, porter des toasts ?
Alors dans ma famille, raconter des histoires et porter des toasts, c'était pas trop notre truc. Je me souviens de repas quand j'étais très jeune, on était ensemble. Mais à partir d'un certain âge, assez jeune, hein, 10, 11, 12 ans, on passait pas trop de temps ensemble en fait. On n'avait pas de rituel qui nous permettait d'échanger. Et en tant qu'enfant dans ma famille, on a été plutôt élevé dans le silence. C'est-à-dire qu'un enfant, il n'a pas trop le droit à la parole. On avait le droit de parler, mais notre parole n'était pas trop prise en compte, en fait. On ne se sentait pas à l'aise pour exprimer nos idées, nos émotions, nos problèmes. Ce n'était pas dans la culture de la famille. Donc, il n'y avait pas trop d'exemples, de modèles qui permettaient de copier ou de s'inspirer ou de se dire « Tiens, j'ai envie de ressembler à ça, ça a l'air bien. » Donc, au contraire, c'était plutôt beaucoup de questionnements intérieurs, beaucoup d'observations. Plutôt que parler ou s'exprimer, et s'épanouir et prendre sa place. C'est vraiment un autre mode de fonctionnement au sein de ma famille.
C'est-à-dire qu'au moment où tu as voulu t'améliorer en termes de prise de parole en public, tu as dû recommencer un peu à partir du zéro, te construire du zéro.
Zéro ou peut-être même négatif, parce que quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole, ça devient quelque chose de très difficile. Moi, je ne suis pas né en France. J'ai commencé à parler français d'une manière récurrente, on va dire, à partir de 12 ans, quand je suis arrivé en France. Donc avant, je parlais plutôt arabe ou kabyle, parce que dans ma famille, on parle plutôt kabyle au sein de ma famille. Donc j'ai appris le français à l'âge de 12 ans, en fait. Donc avant, le français, pour moi, c'était juste la télé. Donc on avait les 6 chaînes télévisuelles en Algérie. Mais c'est comme ça que j'ai appris le français, mais d'une manière auditive, mais pas d'une manière parlée. Donc j'ai dû réapprendre à l'âge de 12 ans à parler, à m'exprimer, à structurer mes phrases, etc.
D'accord. Et à quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait apprendre à parler en public ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Est-ce qu'il y a une histoire en particulier ?
Prise de parole en public, j'ai commencé très tôt en fait. J'avais l'impression que pour m'épanouir et pour m'exprimer pleinement, exprimer mes envies, mes idées, il fallait que je sorte du cercle familial. Parce que pour moi, si je restais là-dedans, c'était compliqué de développer ça. Et donc, la première chose que j'ai faite à l'âge de 15 ans, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'aider à prendre la parole en public ? Et ma passion à l'époque, c'était le foot. Et donc, je suis allé au club de foot en bas de chez moi pour donner des cours à des petits-enfants. Donc, à des poussins, débutants, Benjamin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la parole en public. Auprès de petits, comme ça, j'ai expérimenté, j'appliquais, je pratiquais, mais avec des gens qui n'allaient pas me juger sur est-ce que je parle bien ou je parle pas bien.
Et est-ce que c'était un choix conscient ou est-ce que c'était naturel et tu réfléchissais pas encore pour l'instant à développer cette capacité ? Donc tu as vraiment réfléchi ?
Je pense que j'ai beaucoup réfléchi et j'étais déterminé à pas rester dans le silence. C'était vraiment ça, le combat, il était là. C'était pas agréable et pas confortable d'être dans le silence. Et c'était une manière de sortir d'une sorte de prison intérieure, quoi. J'ai besoin de m'exprimer. Comment je fais pour ça ? J'ai trouvé une solution, c'était le foot et les petits, quoi.
D'accord. Mais quelle était ta motivation intérieure ? Quelle était peut-être une situation qui a déclenché ça ? Est-ce que c'était à l'école ou pour faire de nouveaux amis ? Dans la famille.
C'est vraiment me dire, est-ce que je suis à l'aise de parler quand je suis à l'école ? Est-ce que je suis à l'aise d'exprimer mes idées en famille ? Est-ce que je suis à l'aise tout simplement de dire ce que j'ai à dire ?
Cette capacité, ça fait un petit peu partie de ton projet de développement personnel global, ouais. C'est ça ? C'était ça.
Plutôt. C'était ça. Mmh. J'acceptais pas le fait que je puisse pas m'exprimer. En fait, je voyais beaucoup de gens autour de moi qui étaient à l'aise. Donc à l'école, je me disais, mais comment ils font pour parler eux ? Qu'est-ce qui fait qu'ils parlent ? Et je me disais, s'ils sont capables de le faire, pourquoi pas moi ? Et donc je ne me suis pas dit, eux, ils ont une histoire familiale qui est comme ci, comme ça. Ce n'était pas l'intérêt. C'était comment moi, je pouvais y arriver et prendre le temps de le faire et de se mettre dedans, en fait, en action.
Donc tu ne t'es pas renfermé dans... à analyser un peu les causes, tu es allé vers
le comment.
La solution.
Exactement.
D'accord. Alors, ouais. Donc tu as commencé avec les petits. Comment tu t'es entraîné avec eux ? Donc, quel était le facteur de prise de parole ? Là, il fallait expliquer comment faire ? Il fallait devenir leur leader ?
Donc, il y avait, on va dire, 2 heures d'entraînement les mercredis. Et puis le samedi, c'était jour de match. Donc il y avait les débutants, les poussins et les benjamins, mais j'entraînais les 3 catégories. Et donc ça me permettait de donner des instructions, de dire comment faire, de faire des démonstrations. Et donc petit à petit, m'habituer à ma voix en fait. Déjà c'était difficile de s'entendre parler, de s'entendre dire des choses et que les enfants écoutent. Donc voilà, il y avait comme un feedback quoi, qui venait instantanément et me dire « Ah tiens, on m'écoute ». On me suit, j'ai de la valeur, donc on commence à se construire, à construire un peu son estime de soi à ce moment-là. Donc il y avait le moment d'entraînement et le moment de match où il y a un peu plus de pression, plus de tension, puisqu'il y a un adversaire. Et là, il faut être, faut être un stratège.
Mais moi, j'ai toujours eu cette image des entraîneurs, ils n'ont pas vraiment besoin de faire des beaux discours, ils doivent juste crier et ce n'est pas le cas.
Beaucoup du match se joue avant en fait, se joue à l'entraînement que je viens de te décrire, à la préparation mentale qu'on fait aux joueurs dans le vestiaire, à ce qu'on leur dit pendant la pause, donc il y a énormément de messages qui passent pendant tous ces moments-là. Après pendant le match, ça y est, il n'y a plus qu'à regarder et voir est-ce que tout ce qu'on a mis en place se met en exécution ou pas.
Est-ce qu'on peut dire que s'entraîner sur des enfants, c'est un bon moyen après pour que les adultes écoutent aussi, parce que les enfants, pour attirer leur attention, il faut beaucoup d'efforts. On peut dire que quand on a pu passionner les enfants, après avec les adultes, c'est plus facile ou non ?
Il y a un aspect qui aide beaucoup, c'est que les enfants, ils sont dans un moment de jeu. C'est-à-dire que c'est un moment de plaisir pour eux. On ne va pas les contraindre à frapper dans le ballon, faire un centre, à jouer un match. C'est plus facile de les convaincre de faire quelque chose. Après, pour faire des longs discours avec des enfants, ça ne sert à rien. Il faut être très bref, il faut être très clair, très précis, très factuel et donner la consigne et aller tout de suite vers, vers l'exécution en fait. Ça entraîne d'une certaine manière à être précis et bref.
Mais finalement, les adultes, ils aiment les mêmes choses, n'est-ce pas? Ils sont obligés un petit peu d'écouter les grandes présentations, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais finalement, on voit les séances de team building ou de coaching, notre attention, elle est quand même assez courte, même pour les adultes. Donc,
C'est vrai. C'est vrai qu'on aime les mêmes choses que les enfants, c'est-à-dire que ce soit des jeux qui nous permettent d'apprendre. On appelle ça maintenant les serious games. On aime bien que ce soit précis, concis. Bon, on le remarque dans les entreprises. Hein. Même les étudiants que j'ai vus hier, ils ont tendance à rapidement prendre leur ordinateur, être sur leur téléphone. Dès que ça devient trop long ou trop inintéressant ou trop peu rythmé. Donc on a besoin de tenir l'attention des gens et ça devient vraiment un défi aujourd'hui au sein des organisations, des entreprises, mais aussi des étudiants ou de toute personne à qui on parle. Maintenir son attention est un défi d'aujourd'hui et de demain.
Oh, ça c'est sûr. Bon, même quand tu parles des livres, moi j'ai un problème, j'ouvre un livre, si j'ai un téléphone à côté,
ouais,
je vais être tout le temps distraite, il faut que je cache le téléphone dans une autre pièce, sinon je n'arrive pas à lire.
C'est une très bonne méthode. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai formé des gens à la lecture rapide, et un des conseils que je leur donne, le moment de lecture doit être sacré. C'est-à-dire qu'on met tout de côté, on met son attention sur la lecture, et on reste concentré à 100%, et on travaille sur des courtes périodes. C'est-à-dire on travaille sur ce qu'on appelle le pomodoro, donc c'est la tomate en italien, c'est la petite tomate de cuisine. On travaille pendant 25 minutes et on fait 5 minutes de pause. C'est ce qui permet de maintenir son attention au maximum pendant un court moment, sinon notre attention diminue petit à petit et on ne s'en rend pas compte et à un moment on est d'un coup très fatigué. Donc il faut faire des moments courts et des moments de répit plus court, hein, 5 minutes, et revenir derrière en ayant bu quelque chose, s'étirer, etc. Donc oui, l'attention, c'est un atout qu'il faut développer, mais qu'il faut en prendre soin, en fait.
Très bien. Et revenons donc à ton amélioration en termes de prise de parole. Donc tu as commencé avec les petits footballeurs.
Oui.
Et ensuite, comment tu as progressé ensuite ?
J'ai fait ça pendant des années, hein, le football. Donc, j'ai fait entraîneur de foot jusqu'à l'âge de 21 ans. Ensuite, j'ai fait entraîneur tennis aussi. Donc, c'était une autre population, une autre catégorie de personnes. J'ai travaillé aussi en centre de loisirs. Donc, j'animais des jeux auprès des enfants. Donc, ça m'a aussi obligé à être avec les autres et à interagir avec les autres. En fait, c'était ça le but aussi. Au-delà de parler à des gens, c'était de m'obliger à être en contact avec des gens pour développer cette aisance et ne plus trop avoir peur de m'exprimer, d'échanger avec quelqu'un en fait. Donc j'ai toujours été orienté finalement sur des métiers où on était en frontal avec des gens en fait.
Un peu contre propre nature.
Exactement. Mm-hmm. Et tout a été comme ça en fait. Quand j'y réfléchis, j'ai fait commercial pour aller contre nature. Parce que les gens disaient, pour être commercial, il faut avoir la tchatche, il faut savoir s'exprimer, il faut ceci, cela. Je me suis dit, tiens, je n'ai rien de tout ça, naturellement, je vais y aller pour le développer. J'avais quand même cet esprit de compétition, et je me disais, donc, je vais découvrir si quelqu'un de calme et de posé peut réussir dans le commercial ou pas.
Donc c'était un défi.
Exact.
Mais des fois, il y a des psychologues qui disent que si on est, par exemple, timide ou on ne parle pas très bien en public, il ne faut pas trop se forcer, il faut accepter et faire des choses, occuper des postes où on n'a pas besoin de ça. Pourquoi aller contre sa propre nature, finalement? Pourquoi pas se calmer?
C'est une manière de voir les choses, c'est vrai. On peut se dire, finalement, je n'ai pas besoin de m'exprimer, je vais garder tout pour moi. Et je vais aller vers un métier d'informaticien, ou j'ai rien contre les informaticiens, mais c'est des métiers où plutôt on est dans son coin, on travaille d'une manière autonome, ou alors comptable, ou alors voilà, des métiers où j'ai pas besoin d'interagir avec le public. Mais moi j'ai choisi de de faire différemment parce que ça m'a permis finalement de me développer, de ne pas rester dans mon coin et de ne pas accepter que le silence allait être allait m'accompagner toute ma vie, quoi. Mais aujourd'hui, j'accepte et j'apprécie les moments de solitude et de silence. Et en même temps, j'aime être avec les gens et échanger, transmettre. Donc il y a une double manière d'être et de faire, en fait.
Et le club Toastmasters, ça t'a aidé dans cette démarche?
Le club Toastmasters, il m'a aidé beaucoup. Là. Je prends du temps pour le raconter. Oui, ça a été un déclencheur ou une continuité, finalement. Un déclencheur dans le sens où j'ai rencontré des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi et qui étaient dans la même envie que moi de développer ces capacités de leadership et d'expression. Mais ça m'a fait développer beaucoup plus que ça. Toastmasters m'a aidé aussi à comprendre qui j'étais, réellement.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
J'avais un ami qui habitait au Canada, à Montréal, et il voulait développer la prise de parole en anglais. Donc il est parti dans un club Toastmasters en anglais, anglophone, à Montréal, et il a découvert ça, et ça lui a permis de se développer. Et en revenant, je lui parlais des livres de développement personnel que je lisais, notamment Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et il me disait, tiens, je ne savais pas que tu étais dans le développement personnel et dans quoi tu veux te développer. Et je dis, la prise de parole en public. J'aimerais développer ça. Et puis là, il me dit, je connais un club, Toastmasters International, il y en a partout, etc. Et là, je me suis renseigné, j'ai trouvé un club à Paris, Agora 75, ça plaît. Et je suis allé pour aller encore plus loin sur le développement de ma prise de parole. J'ai fait ça pendant un an et ensuite j'ai déménagé. Et donc j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps d'y aller, etc. Et ensuite, en 2018, je suis reparti chez Toastmasters. Et là, le déclencheur, il était différent. J'étais dans une société, je travaillais dans une société de distribution de composants électroniques. Et le manager qui était juste au-dessus de moi partait et je me suis porté candidat pour ce poste. Malheureusement, ce poste ne m'a pas été donné. Il a été donné à une personne. On était amené à avoir une réunion avec cette personne. On a eu une réunion avec lui, une réunion commerciale. Et je l'ai vu développer sa vision, ses idées. Je me suis dit, comment peut-on être motivé par ce mode de leadership ou ce mode de management? C'était pas suffisamment énergique, dynamique, inspirant. Et je me suis dit que j'avais intérêt à développer ces capacités le jour où une autre opportunité se représenterait. Et donc ça m'a mis en mouvement, en colère d'abord parce que j'ai pas eu le poste, et en mouvement parce que je me suis dit c'est une opportunité de faire différemment. Et j'ai rejoint Toastmasters Boulogne-Billancourt en janvier 2018 à cause de cette frustration, de cette... cet échec, on va l'appeler, mais bon, ça dépendait pas de moi d'avoir le poste, mais je me suis dit, qu'est-ce qui dépend de moi là-dedans? C'est de me mettre en mouvement par rapport à cette compétence à acquérir.
Les frustrations peuvent être des très bonnes, fortes motivations.
Exactement, comme quand j'avais 15 ans. En fait, j'ai toujours le même, le même motivateur.
Très bien. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie concrètement après que tu as développé ces qualités de prise de parole? On va d'ailleurs entendre quelques conseils concrets plus loin. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie concrètement?
Alors, la première des choses déjà, grâce au discours qu'on délivre à Toastmasters, j'ai découvert ma réelle passion, mon réel envie de transmettre en fait. Par rapport aux discours qu'on fait, parce qu'ils sont libres, en fait, on choisit ce qu'on veut. Et donc, j'ai remarqué que je faisais beaucoup de discours sur le développement personnel, professionnel. J'étais aussi animé beaucoup par l'écologie et l'efficacité. Donc, je me disais, tiens, j'ai beaucoup de ces sujets qui reviennent. Et puis, comme j'avais un feedback des personnes qui me disaient que ça les avait poussés à l'action, qu'ils utilisaient ce que je racontais, je me suis dit, tiens, peut-être que je peux en faire mon métier. Et donc, ça a développé en moi l'envie d'en faire mon métier, déjà. Découvrir ce qui était important pour moi, ce que j'aimais partager, c'était pour moi une révélation de ce que j'allais faire à l'avenir, en fait. Qu'est-ce que ça a changé? Ça m'a fait prendre conscience que je pouvais faire un autre métier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça a amélioré énormément ma capacité à observer. Comment j'observais les gens quand ils prenaient la parole, le niveau de détail que j'observais sur leur gestuelle, sur leur capacité à regarder ou pas le public, sur leur respiration, sur l'enchaînement qu'ils faisaient, sur la structure. Donc j'observais d'une manière extrêmement précise. Et de cette compétence, j'ai pu la partager avec des gens que je voyais faire des prises de parole. Je leur faisais des commentaires, des feedbacks qu'ils recevaient avec grand plaisir. Et ils me disaient que pour certains, c'était la première fois qu'ils avaient ce type de feedback. Donc j'en ai bénéficié pour moi. J'ai fait bénéficier des gens par rapport à l'observation. Et surtout, troisième chose, ça m'a fait rencontrer beaucoup de personnes et qui partagent les mêmes envies que nous. Donc ça nous donne des idées de développement personnel, professionnel. Rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes idées, c'est très riche et très, très inspirant en fait. Donc c'est beaucoup de choses que m'a apporté Toastmasters. Et ensuite, sur les compétences, clairement, petit à petit, le regard que les gens avaient sur moi avait changé quand on prenait la parole. Avant, j'avais du mal à prendre ma place, à rester en place, à rester ancré. Maintenant, c'est beaucoup plus marqué. Les gens écoutent beaucoup plus. Il y a un silence quand on s'installe. Donc, il y a un comportement aussi qui est différent des gens quand ils nous écoutent. Et puis, le trac, la gestion du trac, c'est plus la même. Avant, le trac faisait qu'au départ, on était un peu en manque de souffle, en manque de respiration, et maintenant le track se gère différemment. On joue avec le public, donc on utilise vraiment les difficultés de la prise de parole en public en son avantage. Et ça, c'est une compétence, je crois.
C'est un super pouvoir, en fait, pouvoir parler en public.
Je suis venu pour quelque chose, apprendre des techniques et des compétences. Au final, j'ai appris qui j'étais, beaucoup mieux. J'ai échangé avec des gens qui m'ont fait comprendre qui j'étais aussi. Et c'est un endroit où on a énormément d'informations. On parle beaucoup de data aujourd'hui. Ce qui nous manque en fait quand on prend la parole, c'est des retours et des informations. Et donc avoir ces retours permanents dans Toastmasters permet de devenir beaucoup plus conscient de ce qu'on fait, de comment on est perçu, d'être propriétaire finalement de ce que je fais, ce dont on n'est pas conscient réellement. Quand on n'a pas ce type de retour.
En plus, dans la culture française, on critique à contre-cœur. On va dire « oui, oui, c'était très bien, je corrigerai quelques petits trucs, mais sinon, c'était très, très bien. » Alors que, même si c'était, par exemple, très mauvais, en France, je trouve, par rapport à la culture russe, ou apparemment, en Europe, les Hollandais sont les plus directs. S'il n'y a pas quelqu'un dont le rôle va être dédié à faire le retour, c'est très difficile, je trouve, souvent en France, d'avoir un retour honnête.
Avoir un retour honnête, précis et utile. Souvent, on fait des retours qui sont trop généraux, trop vagues. « Ah, c'est bien ce que tu as fait, je trouve que c'était efficace. » Ça ne donne aucune information. Par contre, dire à quelqu'un, lui dire ce que tu as fait là, à ce moment-là, en ouvrant les bras, permet d'avoir une certaine ouverture, une certaine dynamique. Le fait de regarder le public, on s'est senti accroché. Ça, c'est précis. C'est précis, c'est factuel. Et ça permet de donner des vraies informations à la personne. Donc, on a tendance à beaucoup donner d'informations qui ne sont pas utiles. Donc, quand c'est utile, c'est factuel, précis. Et on dit beaucoup le mot bienveillant. Mais c'est bienveillant dans la forme, dans la manière de l'amener, dans le vocabulaire qu'on utilise. Et aussi, on a une structure pour faire en sorte que la personne accepte mieux ce qu'on dit. Parce que, bien sûr, il y a des choses bien qu'on fait, et en même temps, il y a des choses à améliorer. Et il faut, au-delà de donner un retour ou un feedback, ce qui est très important, c'est de maintenir une bonne relation entre celui qui a fait le discours et celui qui donne le retour. La relation prime sur le contenu. Donc, si on est focalisé là-dessus, c'est là où on permet en fait à la personne de s'améliorer parce qu'elle aura confiance dans sa capacité à venir et à refaire, et à refaire, et à refaire, et à refaire encore et encore des discours. parce que la compétence vient avec cette pratique.
Donc j'ai déjà entendu, je pense, deux conseils pour progresser en prise de parole en public. C'est essayer d'avoir un retour et pratiquer le plus possible.
Essayer de l'avoir ou le réclamer. Donc si on ne l'a pas instinctivement, aller voir quelqu'un et lui dire « Qu'est-ce que tu as pensé de ma prise de parole ou de mon intervention ?» Même si ce n'est pas hyper précis, vaut mieux un retour qui est moyen que pas de retour du tout. Donc c'est très important d'avoir des retours réguliers. Et il faut avoir le courage d'aller les réclamer, puisqu'on a peur de ce qu'on va nous dire.
Et une personne qui nous écoute en ce moment et qui veut aussi passer à l'action et s'améliorer en prise de parole en public pour des réunions familiales ou professionnelles ou parce qu'ils doivent le faire dans le cadre de leur métier, quels sont tes conseils concrets ?
À part rejoindre Toastmasters pour venir s'entraîner.
Ça, c'est obligatoire, mais sinon...
Je vais parler pour moi, ce qui m'a permis moi de progresser. Déjà, c'est le fait de me dire que c'est important pour moi de le faire. C'est-à-dire se dire pourquoi c'est important pour moi. Ben, moi, ça rejoint une de mes valeurs qui est le dépassement de soi. Je pourrais très bien me dire, ce que tu as dit tout à l'heure avec ce fameux psychologue, je suis comme je suis et je l'accepte. Ok, si ça fait partie de mes valeurs, j'accepte et je fais avec. Par contre, moi, dans mes valeurs, j'ai dépassement de soi, courage et authenticité. Donc, j'ai envie de transmettre ça à travers ma prise de parole, de montrer que je me dépasse et de montrer que j'ai le courage de dire ce que j'ai à dire. Donc, être en lien avec ces valeurs, c'est très important. Deuxième chose, c'est parler de ce qu'on aime, en fait. C'est beaucoup plus facile.
C'est un bon conseil.
Si je viens parler, si j'aime les tortues, les animaux, les gens, ils aimeront entendre. Si j'ai la passion pour ça, je vais transmettre une envie de voir ce que c'est que des tortues, etc. Moi, je parlais de développement personnel. Je sais que dans le club, il y en a qui n'aimaient pas. Mais ma manière de le faire faisait qu'ils s'y intéressaient. Ils étaient curieux. Ils n'aimaient pas tout ce que je disais. Mais le fait que j'aime ce que je raconte, ils étaient curieux de se dire c'est quand même audible, vous voyez. Ensuite, je pense que la préparation est très importante. Si on ne prépare pas, on aura moins de confiance au moment où on va le dire. Et par rapport au retour qu'on va avoir, c'est découragé en fait. Au début, quand je faisais mes prises de parole, je préparais ça pendant des jours, vraiment. J'avais 7 minutes de discours.
Moi aussi.
Et je préparais ça, je sais pas, pendant...
2 semaines.
Ouais, 2-3 semaines. Mais vraiment, tous les jours, j'écrivais. Je voulais que ça soit vraiment bien fait, que les gens soient contents de ce que je raconte. Donc, je passais beaucoup de temps et j'avais beaucoup de stress à chaque fois que je le préparais et je le disais. Donc, la préparation au départ, au moins la première ou les 2 premières années, c'est très important. Se préparer, c'est le second conseil. Le troisième, c'est d'accepter le stress. Le stress fait partie du jeu et il faut juste l'accepter. Tu peux pas faire cette prise de parole sans qu'il y ait un peu de stress. Maintenant, il faut pas qu'il soit trop grand, sinon ça va me bloquer. Il faut pas qu'il soit trop faible, sinon ça va pas me mobiliser. Il faut qu'il soit à la bonne hauteur pour me permettre d'être suffisamment mobilisé, suffisamment excité pour aller faire ce discours. Donc accepter le stress et surtout accepter que je suis pas parfait. Moi, on m'a souvent reproché que je ne souriais pas. Je ne souris pas pendant les discours. Parce que c'était trop sérieux pour moi au début. Donc, je ne souriais pas beaucoup. On me reprochait aussi que j'étais tendu au niveau du corps. C'est vrai. Mais j'avais plein de choses aussi que je faisais bien. Donc, accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on a des choses à améliorer. Et accepter aussi qu'on peut construire sur ses forces. Et une des grandes forces, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'aimer ce qu'on raconte. Et c'est déjà un gros pas en avant. Ensuite, pour progresser, il faut que ce soit une priorité pour soi. Moi, je sais que par exemple, le lundi soir, 2 fois par mois, il n'y avait rien qui pouvait venir enlever ça de mon emploi du temps. Donc c'était posé et il n'y avait aucune activité qui pouvait interférer avec celle-là. C'était très important pour moi.
Donc lundi soir, tu parles des réunions Toastmasters.
Réunions Toastmasters qui ont lieu 2 lundis par mois, entre 19h et 21h. Et un autre conseil, c'est prendre toutes les occasions pour s'entraîner. Exemple, quand j'ai redémarré Toastmaster en 2018, j'avais un mariage d'un ami juste après, 80 personnes, et je me suis forcé à prendre la parole, à faire chin-chin et à porter le toast. Et les gens sont venus me voir, c'est super, c'était très bien dit, c'était émouvant, t'as parlé du cœur et tout. Et pour moi, c'était obligatoire que je m'exprime parce que c'était un entraînement de plus. Là, je vous parle d'un mini discours de 2 minutes que j'ai fait, mais c'est aller à la boulangerie et dire bonjour différemment, s'entraîner à dire bonjour différemment, regarder les gens d'une autre manière. C'est, ça se joue tous les jours, en fait. C'est combien de fois je fais en sorte de sortir de ce que je fais d'habitude pour avancer dans ma capacité à bien parler, à bien poser ma voix, à bien respirer et à répéter le maximum de fois.
Très bon conseil, merci Hicham.
Je voudrais ajouter un truc sur ce que ça m'a permis, la prise de parole. Parce que on parle de prise de parole, mais aussi la prise de parole fait partie de moi maintenant. Et la prise de parole m'a permis finalement, quand on regarde depuis l'âge de 15 ans, à prendre une place en fait, à prendre ma place dans ma vie. Je n'osais pas la prendre avant. Maintenant, grâce à la prise de parole, bah, je me dis j'ai le droit de m'exprimer et j'ai le droit d'exister en fait. On en vient à ça. C'est beaucoup de gens ne font pas le lien, mais c'est ça que j'ai compris avec le temps. C'est que ça me donne le droit de dire oui, j'existe et j'ai ma place. Et c'est une manière de rentrer dans ça et de prendre complètement et entièrement sa place. D'autres choses que j'ai réussi à faire avec le temps, c'est pas le fait d'avoir gagné des techniques, des méthodologies. C'est vraiment me débarrasser de certaines couches et de certaines croyances sur la prise de parole. Parce que la prise de parole, c'est la continuité de sa vie, en fait. C'est pas « je suis comme ça dans ma vie et je suis comme ça dans la prise de parole ». Il faut qu'il y ait un lien entre les deux.
Il faut que ça soit intégré dans la vie.
Exactement.
Quand tu as parlé de la boulangerie...
Si j'arrive à parler comme je parle dans ma vie, avec tout le naturel, bah, c'est OK, en fait. C'est OK. Et si je développe ma personne dans ma vie, je la développe aussi dans la prise de parole. Et vice-versa. Les techniques et méthodologies que je développe dans la prise de parole, bah, ça va me servir dans ma vie. Il y a une communication entre les deux. Mm-hmm. Donc c'est ça aussi que je voulais souligner.
Et pour terminer, je voudrais savoir quels sont tes autres projets, tes projets en termes de développement personnel grâce à ce savoir-faire de prise de parole.
Je citerai John Cotter avec sa 7e étape. Quand un changement a réussi, j'estime que la prise de parole, c'est quelque chose qui est plutôt un atout aujourd'hui qu'une faiblesse avant. Quand on a réussi un changement, il faut trouver encore d'autres changements et changer encore plus. C'est la 7e étape de la méthode de John Cotter, de la conduite du changement. La 8e, c'est d'ancrer ce changement dans sa culture. Je pense que c'est fait. Et la 7e, c'est d'initier encore d'autres changements. Et un des changements que j'ai initié récemment, c'est apprendre à écrire. Comment écrire plus correctement, comment exprimer ses pensées avec plus de précision, comment me faire comprendre par les autres, par l'écrit. Donc je suis vraiment sur un développement qui va me prendre beaucoup de temps, je suppose, parce qu'il y a de la lecture avec, il y a de l'écriture. Ça va me prendre au moins 2-3 ans, comme ça a pris pour la prise de parole, pour avoir ce niveau aujourd'hui. Je pense que l'écriture, c'est mon prochain défi.
Et quels moyens tu vas utiliser? Est-ce que tu vas faire comme pour prise de parole? Ça veut dire que tu vas apprendre des personnes plus professionnelles qui possèdent ce pouvoir, ou tu vas lire des livres, ou tu vas réfléchir, ou tout ça?
Déjà, si j'applique la méthodologie que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est de prendre toutes les opportunités pour écrire. Tous les jours, s'entraîner à écrire et faire en sorte que ça devienne une habitude. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, écrire pour développer cette facilité à sortir les choses de sa tête. Et ensuite, oui, bien sûr, copier sur des gens qui savent faire, que ce soit des écrivains, que ce soit des personnes qui maîtrisent ça et que je connais, qui peuvent me transmettre des méthodologies, des manières de faire pour me permettre de m'améliorer.
Est-ce qu'on pourra bientôt te lire?
Au moins dans des articles, oui. Dans un bouquin, j'espère. Pourquoi pas?
Bien sûr.
Bientôt.
Très bien. Merci beaucoup, Hicham, pour ces conseils précieux.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet entretien. Si vous voulez rencontrer Hicham et autres membres de notre club, contactez-nous sur notre site Forum RDS, forumrds.org. À bientôt!